Nucléaire, la fabrique de l'oubli. Montage radiophonique en plusieurs épisodes. À travers romans, témoignages, archives sur le nucléaire.
On a perdu le sens de la mesure. La technologie nous a rattrapés. On n'est plus humain.
Immersion en milieu radioactif, territoire où la catastrophe semble permanente.
Le nucléaire ne peut se développer que s'il est dirigé par des gens non consciencieux, incompétents et irresponsables.
Épisode 11. Déchets éternels.
L'énergie nucléaire est spécifique en ce qu'elle introduit des dangers considérables sur une échelle bien plus importante qu'auparavant. Il peut s'agir d'un pays entier, d'un continent, voire de la planète dans sa totalité.
De plus, les agressions de l'énergie nucléaire se placent dans une échelle de durée difficile à imaginer. Des siècles pour les contaminations par des radioéléments à vie moyenne. Ainsi, l'activité du césium-137, dispersée en Europe par le réacteur de Tchernobyl, n'aura décru d'un facteur 1000 que dans 300 ans. Pour des éléments à durée de longue vie, comme le plutonium, leur activité demeurera significative pendant des centaines de millénaires.
Il en est de même pour les déchets radioactifs provenant du fonctionnement normal des installations nucléaires. Le problème de leur stockage fut totalement ignoré pendant la période de promotion de cette énergie nouvelle. Quand il ne fut plus possible de l'ignorer, on l'escamota. Des évaluations fantaisistes conduisaient à des volumes de déchets extrêmement faibles, donc aisément gérables. En réalité, ils sont produits en grande quantité, et compte tenu de la durée du stockage, leur accumulation continuera tant que l'énergie nucléaire sera utilisée. Après une dizaine d'années d'exploitation industrielle, le stock de déchets pose déjà de réels problèmes.
On lorgne avec avidité les déserts d'Afrique ou d'Asie pour se débarrasser de ces indésirables résidus toxiques et encombrants. Des savants honorables nous avaient garanti que la science était parfaitement capable de faire disparaître ces déchets et des solutions étaient avancées. Enfouissage sous les calottes polaires, envoi dans le soleil, transmutation des éléments à vie longue dans les réacteurs nucléaires, enfouissage entre les plaques du manteau terrestre. Ce n'était en réalité que des rêveries de songes creux. Ces scientifiques cautionnèrent une entreprise de publicité mensongère. C'est bien chez eux qu'on trouve la meilleure expression de l'irrationalité moderne. La gestion du stockage des déchets a des implications logiques, impossibles à ignorer, et qu'il faut introduire dans le système de valeurs qui fonde la morale de la société nucléaire. Il s'agit d'un engagement pris pour les générations futures. Nous imposons à nos descendants des coûts qui risquent de s'avérer déterminants pour la société.
Après avoir exploité les peuples colonisés, les paysans, les ouvriers, et dans l'impossibilité d'étendre encore son champ d'activité, le monde industriel s'est lancé dans l'exploitation des populations à venir.
La gestion des déchets implique un niveau de connaissances technologiques élevé. Seules les générations futures qui posséderont ce niveau de connaissances ont quelques chances de pouvoir gérer au mieux ces déchets. Les autres auront des taux de mortalité qui pourront être élevés sans savoir pourquoi. Comme les technocrates ont quand même un certain sens de leurs responsabilités, ils ont abordé ce problème. Ils se sont inquiétés des conséquences possibles pour les sociétés futures. Ainsi, on a pu lire dans la très sérieuse revue scientifique américaine Science cette curieuse information.
Le ministère de l'énergie du gouvernement américain avait demandé au Battle Memorial Institute de proposer des moyens qui permettraient de mettre le public en garde, dans le cas où toutes les archives auraient été détruites, ou barrières et signes auraient totalement disparu. Une des meilleures solutions proposées consistait à inventer des mythes qu'un clergé atomique serait en charge de perpétuer pour des siècles et des siècles dans la filiation de la malédiction des pharaons. Évaluer la survie de l'humanité en termes probabilistes de la théorie des jeux, gagner des paris en relevant des défis, telles sont les composantes du fondement de la culture nucléaire.
C'est cette terre quoi, qui est au cœur de la mer. Voilà. Si c'est au cœur de la mer, ça a tout de la mer, ça reçoit tout de la mer. En même temps, c'est la terre qui s'y intègre. Quoi. C'est vrai ça.
Toute l'année, nous avons du vent. N'importe quelle direction, vous savez. Par le fait, nous sommes dans une île, une presqu'île.
Ou pour qu'il fait le tour de l'Ague, il verra rapidement. Enfin, ces énormes falaises, qui sont parfois monstrueuses, quoi. Enfin, certaines, si... Enfin, il faut les faire à pied, là, par le fameux chemin des douaniers, là. C'est là qu'on se rend compte de la majesté, de la grandeur, de l'écrasement de la falaise, quoi. À quelques 1200 mètres du cap de la Hague, il y a ce qu'on appelle d'ailleurs la fosse de la Hague, qui descend jusqu'à 170-175 mètres. Quoi. Vous voyez, ça fait encore une falaise terrible. Entre la Hague et Origny, il y a ce qu'on appelle les raies, comme les haies qui séparent les champs, les raies, il y a les raies. Et alors, la mer, surtout en marée montante, se précipite dans ces vallées sous-marines, quoi. Avec une violence inouïe, quoi, avec des courants qui attendent dans des marées de coefficients de 112 ou 116, la mer se déplace à 10 nœuds, quoi, c'est-à-dire à 16-17 km à l'heure, c'est quelque chose d'inimaginable, ce qui provoque d'ailleurs à la surface des remous terribles, et si on est en bateau en grande marée, on fuit le ras, on ne peut pas traverser le ras, comme on dit le ras Blanchard, qu'on appelle d'ailleurs Blanchard, parce que la mer est blanche, quoi, c'est pour ça qu'on l'appelle le ras Blanchard.
La Cauge, comme on l'appelle là-bas. La première fois que je l'ai vue, je devais avoir peut-être 8-9 ans. Sur ma droite, il y a des vaches. Mais je regarde vers la gauche. Des silhouettes massives, bleues, grises, ternes, immenses, nombreuses. Ça paraissait énorme, et ça l'est. Alors tu vois, là, c'est UP2, là UP3. Et tu sais, c'est 5 fois plus grand au-dessous que ce que tu vois là. Un peu comme les icebergs, ouais. Il s'excite un peu, mon oncle. Il a l'air un peu fier de ce truc aussi. Je me rappelle plus s'il y bossait déjà. Je me rappelle qu'il faisait gris clair, genre entre le crachin et la brume. Je me rappelle longer les barbelés en bagnole pendant longtemps, avec le tonton, le jeune. Il est cool, c'est celui qui m'a emmené la voir. Il m'explique des trucs que je capte pas trop, ça a l'air super compliqué, super fort et super important ce qu'ils font là-dedans. Des gros bâtiments comme j'en avais jamais vu. Et des doubles ou triples clôtures de 10 mètres de haut et ses caméras partout, jamais vu ça. Impressionnant, épatant, flippant. Nord-Cotentin, Manche. La Cauge, la Cogema, l'usine de retraitement nucléaire de la Hague, Areva NC, ou l'usine à casserole. Dans les années 60, c'est comme ça que les techniciens du CEA venus faire des essais, des sondages ou même le début des travaux, expliquer la chose à l'autochtone qui questionne. Qu'est-ce que vous faites là? Une usine à casserole. C'est qu'il faut garder le secret.
Il y a une usine atomique à quelques kilomètres de chez vous. Savez-vous à quoi elle sert?
En principe, je crois qu'elle sert à changer l'uranium en plutonium et des choses de ce genre-là. Enfin, je ne sais pas exactement.
Monsieur le maire, comment avez-vous été prévenu de l'implantation de l'usine?
Ben nous avons été prévenus par un monsieur qui est venu nous voir et nous dire qu'il va se construire une usine là sur les Landes. Alors on lui a demandé quelle usine que c'était. Il m'a dit simplement que c'était une usine de plaques pour faire des postes de télévision. Le bazar, il nous l'a pas dit. Et puis quelques jours après, on a appris que c'était pour faire une usine atomique.
On nous a dit qu'on allait nous construire une usine de matériel électroménager là-haut. Alors pour nous, ça nous semblait bon, étant donné que nos campagnes se dépeuplent. puisque la Terre ne peut plus nourrir ses gens. Alors j'allais bien trouver autre chose. C'était, pour nous, c'était bien.
Une usine à la Hague, peut-être, mais une usine atomique, non. Ça a donné une certaine activité à la région, c'est sûr, mais une autre usine qui se serait servie du vent, on est assez bien servi, question vent, aurait certainement apporté tout autant d'activité. On se serait senti beaucoup plus en sécurité.
Parce que ce qu'on présente aujourd'hui comme une usine de recyclage, limite éco-responsable, eh ben en fait, au début, elle servait qu'à un truc. Produire du plutonium pour fabriquer des bombes atomiques, au cas où qu'à Marcoul, ça suffirait pas. Militaro-responsable, quoi. Début de la construction en 62, mise en service en 66. On l'a longé encore un peu, et puis tonton m'a dit « on va voir la mer. Si on zone trop, on va se faire arrêter. » Il a fait vrombir la Mi-8, et on est passé en mode téléportation. On est arrivé au bout du monde en 2-2. C'était à 3 km. Le bout du cap de la Hague. J'étais déjà venu. Pour moi, un mélange d'Irlande, de Finistère et de Cap Horn, rien que ça. Tonton m'explique que c'est les deuxièmes courants marins les plus forts du monde après le Cap Horn. Il a l'air assez fier encore. Un bon petit vent s'est levé et a chassé le crachin. Du granit, de la lande dessus, des petits vallons luxuriants tout autour. À gauche, une super belle plage, avec des dunes qui la séparent de marais où il y a plein de piafs. Des falaises abruptes sous mes pieds vers la droite. Deuxième après le Cap Horn. Qu'est-ce que je disais? Impressionnant, épatant, époustouflant. De la mer, il s'appelle le rat blanchard, parce qu'il est tout blanc souvent, quand entre les forts courants et les vents tempétueux, l'eau devient écume. C'est pour ça que l'usine s'est calée là. C'est peu habité, c'est du granit au sol, du dur, du solide. Et surtout, ça brasse, ça dilue, ça noie dans la masse, dans l'air, dans l'eau. Elle n'était pas aussi grande qu'aujourd'hui, la coge, au début. Ils ont bien cru qu'elle allait fermer en 69. Il y avait assez de plutonium pour nos bombes, merci. Et puis vient le choix du tout nucléaire pour l'ELEC. L'usine s'oriente vers le retraitement du combustible civil. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai trouvé dans le livre de Lorne Wallat, Déchets, le cauchemar du nucléaire, paru en 2009. Ça part d'une analogie, le retraitement ou l'art de réassortir les bûches.
Pour produire de l'électricité, les réacteurs ont besoin de combustible, l'équivalent des bûches que l'on place dans le foyer de la cheminée pour se chauffer. Quand les bûches ont alimenté le feu et qu'elles ont été intégralement consumées, on se débarrasse des cendres, on ne les réinjecte pas dans l'âtre de la cheminée. La spécificité de l'énergie nucléaire est que la bûche du réacteur, à savoir ses barres de combustible, peut être réutilisée, car elle contient de quoi alimenter un second feu. C'est ici, dans l'usine de retraitement, que l'on va extraire le résidu d'énergie exploitable de la bûche carbonisée. La majorité des pays nucléarisés considèrent que la bûche carbonisée n'a aucun intérêt, ou plutôt que l'extraction de son résidu d'énergie n'en vaut pas la chandelle, qu'elle n'est pas rentable économiquement, voire dangereuse. Ces pays ont opté pour le cycle ouvert. La France estime au contraire que la bûche peut resservir sous différentes formes. C'est le cycle fermé. Fermé comme un cercle au sein duquel les matières se recyclent à l'infini, d'où rien ne s'échappe et où tout est perpétuellement réutilisé. Le schéma explicatif et coloré qu'Areva donne à voir sur son site offre ainsi cette vision sûre et vertueuse de la gestion des déchets. Si sûre qu'aucun déchet n'apparaît jamais sur ce schéma.
« Dans les années 70 commence donc la reconversion dans le civil, par la construction d'une deuxième unité de production. L'usine grossit. En 1976, le CEA refile l'usine à la nouvelle entreprise publique, la COGEMA, qui gère désormais une usine de retraitement de déchets nucléaires visant à retraiter le combustible français d'EDF et l'étranger. À l'époque, ce passage à une entreprise publique, mais de droit privé, est vu par le personnel et les élus locaux comme un désengagement de l'État vis-à-vis du nucléaire. Ça leur fait craindre une gestion des risques moins draconienne. Les agents inquiets commencent à parler. La CFDT réalise cette année-là un documentaire, Condamné à réussir, électrochoc pour la population. Sur fond d'opposition à la privatisation, il illustre les difficiles conditions de travail, traite des dangers d'irradiation, fait part de l'inquiétude des agents. Ce document est ensuite utilisé par les antinucléaires. Les cadres de la COGEMA acceptent mal cette critique interne. Début 79, les premiers déchets nucléaires japonais arrivent à Cherbourg, à bord du Pacific Fisher. Le débarquement surprise est sous haute protection militaire. Ça frite violemment, d'autant plus que des salariés en lutte rejoignent les milliers d'opposants. Un repas de famille à Cherbourg, plutôt vers la fin des années 80, peut-être bien 86. Il a dû se passer quelque chose. Ils en parlent à table. Papy dit que c'est de la balle, la COGE. Une chance pour la région et la fierté de la France. Avant ça, Cherbourg, c'était sinistré. La Hague et la conversion de l'arsenal dans les sous-marins nucléaires, ça a sauvé la région. Le tonton coule, il y bosse maintenant, c'est sûr. Les grands-parents sont rassurés, il est sauvé. Bosser à la COGE, c'est LA bonne place, avec une bonne paye. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Il paraît que c'est dangereux là-bas. Dangereux pour tonton ? Dangereux pour tout le monde, quelqu'un répond. Le ton monte, je comprends plus rien. Dangereuse, la fierté de la France ? En me rappelant ce moment, je pense à ce témoignage découvert il y a quelques mois. Cherbourg, début avril 78. Une petite annonce dans le journal local. Société de nettoyage industriel, embauche, laveur de carreaux. André, 25 ans, père d'un enfant et d'un autre à naître, chômeur depuis des mois, est prêt à tout pour trouver un emploi. À l'agence de la société Honnête, on lui propose un contrat de 3 mois renouvelable, à condition qu'il satisfasse à l'examen médical. Il témoigne.
Lundi matin, 8h. Par la route qui relie Cherbourg à la pointe de la Hague, la colonne des cars atteint la double enceinte grillagée du centre atomique de retraitement. C'était donc ça. J'étais intrigué. 2 oncles de ma femme avaient travaillé ici, mais jamais ils n'en parlaient. La formation ? Rudimentaire. 3 jours à peine, dans une salle de cours. Un atome c'est quoi, et un rayon alpha, bêta, gamma. Aujourd'hui encore, j'ai pas très bien compris. La différence entre contamination et irradiation. Jeudi matin, 8h. Le vestiaire. Zone 700. Slip, chaussettes, pantalon et veste de coton blanc, chaussures souples. Contrôle du stylo dosimètre de poitrine par un membre du SPR, c'est le service de protection des radiations. On passe un premier sas. Zone 800. Combinaison en coton blanc, à bande rouge, cagoule de coton, masque à gaz, 2 paires de surbottes en coton, 3 paires de gants en latex scotchés. Il fait une chaleur épouvantable là-dessous. De nouveau un sas. Zone 900. J'enfile par-dessus tout ça, la tenue Shadok reliée à un tuyau souple d'arrivée d'air frais. Au début, c'était la panique, j'étouffais là-dessous. Sous cette tenue, sans parler du risque qu'il y a à la déchirer, on perd facilement de 1 à 3 kilos par jour, par transpiration. Le soir, je parle plus que de ça à ma femme, à mes amis. Je veux arrêter, trouver un autre emploi. Mais à Cherbourg, par les temps qui courent... Les contremaîtres de la société Honnête, au vestiaire, raillent, les fillettes. ce qui se dégonfle. Il y a des gars un peu kamikazes qui aiment cette ambiance de baroudeur de l'atome. Ça consiste à travailler la plupart du temps à quatre pattes, avec le masque. Pas plus de 4 heures par jour, prévoient les conventions collectives du CEA. Nous n'en faisions jamais moins. À l'aide de petits cotons, imbibés de white spirit ou d'acétone, ou d'un tampon Jex et d'Ajax, ou encore d'un aspirateur, nous nettoyons les surfaces de ciment ou de tuyauterie contaminées. C'est toujours un spectacle assez hallucinant de voir, dans cette usine soi-disant atomique, une cinquantaine de gars à quatre pattes, dans un hall immense, tenter de résorber une contamination. Parce que l'usine de La Hague est trop vieille, ça pisse de partout là-dedans. La contamination est de plus en plus tenace, de plus en plus importante. Théoriquement, quand ça pète quelque part, le SPR part d'abord, mesure la dose qu'il y a, et balise la zone que nous devons décontaminer, avant que les techniciens et les chimistes n'y remettent les pieds. Théoriquement. Car un jour, un petit chef de Honnête, qui en avait assez d'attendre les gars du SPR, a voulu me faire intervenir, à son idée. C'était encore en zone 900. Il s'agissait de nettoyer un éjecteur, une sorte de pompe qui fuyait avant de le démonter. Le petit chef voulait m'y envoyer comme ça, en tenue Shadok, avec un tampon Jex à la main. Heureusement, le gars du SPR est arrivé. Il l'a engueulé. L'irradiation était telle à cet endroit que j'ai dû travailler à distance, muni d'une longue perche avec le tampon Jex au bout, protégé par une planche en bois au niveau du bas-ventre. Ce jour-là encore, j'avais pris ma dose. Au cours des 6 mois que j'ai passé à La Hague, je serai contaminé sérieusement, par 3 fois. À chaque fois au cou, par la sangle du masque. Trop longue, elle traîne sur le sol quand on est à quatre pattes. Au déshabillage, j'ai retiré le masque trop vite, la sangle m'a touché. Conduit au service médical, on m'a décontaminé. Plusieurs shampoings, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces. Puis analyse d'urine et de sel. On te donne 2 bocaux, tu dois remplir chez toi pendant 3 jours. Puis un soir, au vestiaire, une semaine avant la fin de mon contrat, un petit chef est venu me voir pour me dire que demain, c'est pas la peine de revenir. Pourquoi ? C'est secret. DST. J'ai eu beau réclamer mon dossier médical à la COGEMA et à la société Honnête, à laquelle le centre l'a communiqué, j'ai jamais pu l'obtenir. Si bien que je sais pas exactement des raisons politiques ou médicales laquelle a réellement motivé mon renvoi. J'avais pris contact avec des écolos pour les mettre au courant de la situation.
Un autre tonton, 2 ou 3 ans après ma découverte de l'usine. J'ai peut-être 11 ans maintenant. J'ai posé des questions, je suis curieux, je suis content qu'il m'emmène voir. On va à l'Andra, là où la coge stocke ses déchets. Des barbelés comme d'hab, mais il y en a moins, et c'est moins grand, moins spectaculaire. Je suis déçu. Il y a quelques petits bâtiments à côté d'une colline où il y a de l'herbe. On s'arrête, on descend de voiture. Tonton explique. En fait, c'est la colline qu'il faut regarder. Parce que la colline, c'est les déchets. Ah, c'est tout de suite plus grand. Mais c'est quoi comme déchets ? Des trucs radioactifs, des trucs dangereux. On est à 20 mètres, juste derrière les grillages. Je me souviens voir son regard changer. Viens, on remonte dans la voiture, on s'en va à la mer. J'ai l'impression qu'il a un peu la frousse. Du coup, j'ai peur, moi aussi. Sans trop comprendre pourquoi. Il démarre vite, on va sur une plage. Ils ont raison, les tontons, d'aller à la mer après des coups comme ça. Ça fait du bien, ça nettoie. Je sais aujourd'hui qu'un rapport du professeur François Viel a conclu en janvier 1997 à une multiplication par 2,87 du risque de leucémie infantile chez les enfants fréquentant régulièrement les plages du Nord-Cotentin dans un rayon de 35 km autour de l'usine. En 1999, de sources officielles, l'installation de La Hague rejetait 15 fois plus de radioactivité qu'une centrale nucléaire classique. Grâce à un gros tuyau qui part dans la Manche, ce sont 230 000 m3 de déchets liquides par an, mais il y a aussi des rejets sous forme gazeuse dans l'air, le principe étant que les vents et les courants vont diluer tout ça et les rendre inoffensifs. Et on ne parle que de ce qui est mesurable, certains éléments gaz rares ne l'étant pas. La colline de mon souvenir, le centre de stockage de l'Andra, c'est un stockage provisoire en place depuis 40 ans. En attendant qu'on sache quoi en faire. En vrai, personne ne sait exactement ce qu'il y a dans les fûts enfouis, mais on sait qu'ils représentent un demi-million de mètres cubes. Certains fûts sont percés, il y a des effondrements, des infiltrations, ils sont rouillés. La nappe en dessous est certainement touchée. Quand ils ouvriront la colline, dans 10 ans, dans 20 ans, ou pas, les fûts vont s'effriter.
Au sud-ouest de la Finlande, un site souterrain destiné à stocker des déchets nucléaires pour une durée de 100 000 ans est en construction. Le chantier, inauguré en 2004, pourrait durer encore 2 siècles. Des philosophes, des ingénieurs, des anthropologues, des théologiens et évidemment des artistes y travaillent de concert à trouver une signalétique suffisamment effrayante pour dissuader les générations futures d'aller y voir de plus près. Les responsables de recherche se donnent pour mission de communiquer sur l'idée que c'est un endroit de danger dont il faut rester éloigné. Ils réfléchissent notamment en s'inspirant de la peinture « Le cri » d'Edouard Munch à la façon technique, architecturale et symbolique d'exprimer la négativité de cet espace, mais aussi à des barrières qui nécessitent des compétences technologiques. Les politiques penchent pour l'installation de marqueurs qui baliseront le site par des pierres runiques, par exemple, gravées de messages en différentes langues et pictogrammes. Mais comment s'assurer qu'ils seront compris? Les langues, les symboles changent, l'espèce humaine aussi. Établir des marqueurs en surface revient à attirer l'attention, alors que tout l'objectif des chercheurs est d'éviter à tout prix l'intrusion humaine. Nous ne savons pas en 2011 comment pourraient être interprétés les déchets et le lieu. Trésors, tombeaux, sanctuaires, la capsule radioactive, des monnaies d'échange. Créer une légende, un mythe, une histoire suffisamment forte et symbolique qui puisse être comprise intuitivement pendant très longtemps. Ces pierres runiques connaîtront sans doute le même succès que les stèles dressées sur les côtes japonaises, certaines depuis 1000 ans. Pour signaler les limites atteintes par de précédents raz-de-marée, afin que ces zones ne soient pas bâties, ou que les messages adressés à d'éventuels extraterrestres, embarqués dans les fusées lancées à travers la galaxie pour un voyage sans retour.
J'habite depuis quelques mois à 15 bornes de La Coge et à 5 de Flamanville. J'ai jamais habité aussi près. J'ai dans les 25 ans, toujours la curiosité. Je côtoie tous les jours des salariés de l'usine Areva, de la centrale de Flamanville, des intérimaires, des sous-traitants. J'aime bien aller au bar, alors on se croise. Ils savent que j'aime pas ce qu'ils font. Des fois, souvent au travers de l'ivresse, mais aussi parfois à jeun, ils sont bien critiques sur l'industrie nucléaire. Mais c'est jamais dans leur boutique que ça foire, c'est toujours ailleurs. Il y en a plein que j'aime bien malgré tout. J'ai aussi rencontré des antis, des anciens, ceux des débuts, des plus jeunes aussi. J'ai rencontré un gars, Vladimir Tcherkov, et vu son film, Le Sacrifice. J'ai aussi croisé un ou deux gars malades, qu'ont un doute. On vient d'apprendre que l'EPR se ferait ici, dans le Cotentin. Les patrons de bar payent leurs coûts, les commerçants sont rayonnants. J'ai l'impression que tout le secteur prend une cuite. Quelques-uns parce qu'on est énervés, l'immense majorité, réellement content. Je me baigne tous les jours, mais à chaque fois que je vois l'usine, je suis mal. Je l'appelle la bête, maintenant. Pas très sympa pour les animaux. Le coup de l'EPR, c'est un peu trop, la curiosité a ses limites. Je finis mon CDD et je m'en vais. Pourquoi la vue de la bête me fout-elle aussi mal? Tout simplement parce que ça a pourri un coin où la puissance de la nature s'exprimait pleinement. Un coin magnifique, détruit à jamais par cette usine et sa pollution, sous prétexte qu'on comptait sur la force naturelle du site pour la diluer, cette pollution. Un coin détruit sans même que ça pète. Un coin détruit en fonctionnement normal.
Je me demande si le fait, par exemple, de penser à implanter une deuxième usine dans le secteur, une deuxième usine nucléaire, ne viendra pas à nous mettre dans l'obligation d'ici 10, 50 ou 100 ans, mais de faire de l'Hague un désert.
L'atome écolo. En fait, très peu de matière est finalement recyclée. Et celle qui l'est en devient encore plus dangereuse. Seuls 3,4% du parc nucléaire français, 2 réacteurs, utilisent de l'uranium de retraitement réenrichi. Si on ajoute le MOX, qui sert dans 22 réacteurs, cela porte à 41% la part du parc nucléaire français qui utilise des matières recyclées. Sauf que le MOX, c'est super dangereux. C'est 10% de plutonium, l'élément radioactif le plus toxique, de loin. Il est moins stable à l'utilisation, et une fois brûlé, il contient encore 5% de plutonium et 6% de nouveaux produits de fission. Les déchets issus du MOX sont 5 à 7 fois plus radiotoxiques que les déchets classiques. Ils dégagent une chaleur intense pendant des décennies, beaucoup plus que les déchets normaux. Ils ne sont pas retraités. Et quand bien même. Les déchets ultimes, qu'est-ce qu'on en fait ? J'ai 35 ans. Sur France Info, des nouvelles du Japon. Encore des nouvelles du Japon. Séisme, tsunami, Fukushima. Dans une centrale nucléaire, les bûches de combustible usagées sont stockées dans des piscines à côté des réacteurs, le temps d'être suffisamment refroidies pour être transportées. Sachant qu'il refroidit moins vite et qu'il est plus toxique, le MOX, en partie fabriqué à La Hague, est beaucoup plus dangereux en cas de problème avec le refroidissement ou avec les piscines de stockage. À Fukushima, il y avait du MOX dans les tuyaux, et il y a du plutonium dans l'eau.
L'énergie nucléaire comporte une surcharge de présent. Elle n'intègre ni passé, ni futur. Prenons l'exemple des barres de combustible MOX usées. Le MOX, utilisé dans un réacteur, mettrait 500 ans à refroidir suffisamment, c'est-à-dire à passer sous les 100 degrés pour permettre une destruction souterraine. On dirait une légende urbaine. Il faut avoir renoncé à toute notion de futur pour mettre en place un tel projet. De même, l'énergie nucléaire ne conçoit pas de passé. Tous les discours qui entretiennent le mythe de la sécurité s'enorgueillissent des énormes progrès des technologies actuelles sur celles du passé. Mais on oublie de dire que ce sont des centrales nucléaires construites à partir des technologies et des standards du passé qui fonctionnent aujourd'hui. C'est parce qu'ils nient passé et présent que les discours relevant du mythe de la sécurité prétendent à son infaillibilité. C'est ce qui explique que le discours pro-nucléaire a toujours raison. Exactement comme tout ce que fait la nation. Par définition, elle est infaillible. Le réacteur nucléaire, amputé de l'histoire, entre de ce fait dans un discours qui fait de lui le symbole de l'abondance inépuisable promise par le capitalisme. Non seulement de ressources inépuisables, mais également d'espace inépuisable. Car l'imaginaire lié au capital ne recherche plus l'espace infini à l'extérieur, mais au contraire, à l'intérieur de la matière. Depuis l'époque des grandes explorations, le capital associé à la nation a acquis la faculté de se gaver de l'abondance éternelle, des ressources et de l'espace. Parce qu'elles étaient extérieures au système capitaliste, les grandes explorations avaient besoin du soutien de la nation. Le réacteur nucléaire se trouve très précisément au centre de la lentille à implosion constituée par la nation et le capital. Ajoutons que le réacteur nucléaire, symbole d'abondance inépuisable, se nourrit
d'inépuisables ressources humaines dans la réalité de son exploitation. Mais il suffirait qu'on arrête d'introduire de la main-d'œuvre pour qu'un accident fatal se produise. Tant de choses consomment de l'humanité, que ce soit le travail à haut risque, à l'intérieur du réacteur, mais aussi l'expropriation des terrains pour installer les centrales, ou le renoncement à vivre en sécurité. Il s'agit très exactement là d'une politique coloniale sous l'égide du nucléaire.
J'ai 36 ans. Papy serait pas content. On est à Valogne, à quelques kilomètres de La Hague, à essayer d'empêcher de partir un train de déchets qui viennent de la Cauge. Il y a des lacrymos. À ma droite, une vache me lance un regard larmoyant, mais que j'imagine complice. Elle sait bien qu'en fait, j'ai rien contre les bêtes.
Nucléaire, la fabrique de l'oubli. Montage radiophonique en plusieurs épisodes. À travers romans, témoignages, archives sur le nucléaire.
On a perdu le sens de la mesure. La technologie nous a rattrapés. On n'est plus humain.
Immersion en milieu radioactif. Territoire où la catastrophe semble permanente.
Le nucléaire ne peut se développer que s'il est dirigé par des gens non consciencieux, incompétents et irresponsables.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur lafabriquedeloubli.noblog.org.